Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand est rentré de Montigny dans le Jura où il parrainait la percée du vin jaune, mais son retour n'a pas été facile. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Il neigeait dans le Jura ce week-end, comme sur une bonne partie du territoire du reste. Et la neige, c'est bien connu, n'est pas l'ami des transports, qu'ils soient publics ou privés. Cela n'enlève rien à la chaleur de l'accueil que m'ont réservé les vignerons jurassiens, maîtres du vin jaune, mais il est vrai qu'on aurait difficilement pu trouver de meilleures circonstances avouées pour évoquer le climat dans ses rapports avec l'histoire.
Eh bien justement, les cahiers de Science et Vie se penchent sur la question à travers un numéro intitulé « Quand le climat écrit l'histoire ».
Oui, un passionnant numéro bourré de renseignements assez intéressants et même étonnants. Pour en parler, nous avons convié Emmanuel Garnier, historien du climat, et bien sûr le monsieur météo de votre radio favorite, Laurent Cabrol.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Marie-Antoinette qui voudrait savoir pourquoi l'on fait des crêpes à la Chandeleur.
Et oui, la Chandeleur, c'est aujourd'hui. Et ce soir, Marie-Antoinette va peut-être faire des crêpes et c'est tout à son honneur de se demander d'où vient cette tradition. Pour le moment, je vous propose, à titre de préambule à nos questionnements sur le climat dans l'histoire, de revivre la grande crue de la Seine à Paris en 1910.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il pleut sur la capitale en ce 20 janvier 1910. Il faut vous dire que cet hiver a été particulièrement pluvieux. L'hiver 1909-1910, la pluie est tombée presque sans discontinuer. Le niveau des rivières est très haut. Il devient même inquiétant. Il fait froid, bien entendu, ce qui fait que les sols sont gelés, déjà saturés d'eau. L'eau ne pénètre plus dedans, donc évidemment, il y a des ruissellements et des risques de crue très importants. Le zouave du pont de l'Alma a déjà les pieds dans l'eau. Il les a depuis plusieurs jours. Vous connaissez le zouave du pont de l'Alma, Céline, évidemment, comme,
oui,
tous les Parisiens. C'est une statue de Georges Diebold qui représente un des soldats qui ont participé à la guerre de Crimée. Cette statue est fixée au pile du pont de l'Alma. Au départ, il y avait 4 zouaves d'ailleurs. Maintenant, il n'en reste plus qu'un. Et évidemment, il sert un peu de repère pour les Parisiens. Quand le zouave a les pieds dans l'eau, c'est un mauvais signe. Hein. On est à déjà 3,80 m de hauteur d'eau. Personne pour autant ne s'alarme vraiment à Paris. La Seine a déjà atteint ce niveau plus d'une fois. C'est vrai que le passage est difficile sous les ponts, mais ça c'est assez fréquent. Évidemment, on a interdit la navigation, ce qui fait qu'il y a quand même 300 péniches qui sont bloquées. Les bateaux mouches le sont aussi. Et dans la banlieue, ça c'est quand même nettement plus inquiétant, dans la banlieue Est, il y a plusieurs villes qui sont déjà inondées. Il y a des maires qui ont prévenu le préfet de la Seine, donc notre actuel préfet de police de Paris, et ils ont d'ailleurs proposé de venir en aide aux Parisiens. On se doute dans l'Est de ce qui va se passer à Paris, mais à Paris, on ne s'inquiète de rien. La Seine sort de son lit, c'est vrai, mais ça n'est pas la première fois. Je dis la Seine, alors, pour éviter les messages au standard, nous savons que sur un plan strictement géographique, c'est Lyon qui passe à Paris, mais la tradition historique veut qu'on dise que c'est la Seine. La tradition, c'est que c'est la Seine qui coule à Paris, donc j'allais dire fermer le banc, la question est réglée pour aujourd'hui. Donc il continue de pleuvoir et le 21 janvier 1910, à 7h du matin, notre zouave a déjà de l'eau jusqu'au mollet. On est à 4,78 m. Ça devient inquiétant cette histoire. Encore une fois, en banlieue Est, la Seine a commencé à envahir les rues, de certaines maisons ont de l'eau jusqu'aux fenêtres, ça devient vraiment très préoccupant. À 17h, le zouave a de l'eau, cette fois jusqu'aux genoux, 5 mètres. Dans Paris, on commence à voir les berges du 12e arrondissement touchées, notamment les entrepôts de vin de Bercy, qui sont évidemment le plus proche du niveau maximum de la Seine. Ça commence à être embêtant. Par exemple, l'entrepôt Grand Roqueblave et Fils voit la Seine envahir complètement la maison. Les barriques de vin sont déjà à moitié dans l'eau, ce qui fait que les ouvriers sont obligés dans l'eau, de rouler les barriques sur des espèces de tombereaux, et ce sont les chevaux qui vont essayer, les chevaux vont essayer d'évacuer tout ce que l'on peut, mais les chevaux ont de l'eau jusqu'au ventre, vous voyez, donc il faut imaginer ce que c'est quand même que Paris en 1910. Paris compte 3 millions d'habitants, il ne faut pas oublier que c'est une ville industrielle à l'époque, ce n'est pas du tout la cité résidentielle d'aujourd'hui. Il n'y a pas de maire à Paris, hein. Vous savez, c'est la capitale, donc on estime qu'elle doit être gérée, il y a des maires d'arrondissement, mais la ville elle-même est gérée directement par le gouvernement, via le préfet. C'est le plus grand port de France à l'époque, qui comprend un trafic aussi important que Marseille ou Le Havre, une ville en pleine mutation, en plein chantier. On est en train d'électrifier Paris encore en 1910, faut pas l'oublier. On installe des réseaux à air comprimé, c'est la grande époque du pneumatique aussi. On est en train aussi de développer le métropolitain, bien entendu. Il y a 600 km d'égouts également. Bref, une ville en pleine mutation, sans doute la ville la plus moderne d'Europe, la plus propre aussi, la plus viable, une ville très sûre également. Et cette sûreté, cette sécurité va faire peut-être que les gens y sont particulièrement insouciants. Il faut vous dire que la dernière crue, elle remonte à 1876. Le 22 janvier 1910, la pluie continue. Il faut imaginer, tout ce que je vous raconte là, c'est toujours sous une espèce de pluie, qui n'est pas une pluie battante, mais qui est une pluie persistante. Le Zouave a de l'eau maintenant au-dessus du genou, on est à 5,93 m. Des mesures sont prises par le gouvernement. Le président de la République, Armand Falière, manifeste évidemment beaucoup de solidarité. C'est son métier, j'allais dire, il est payé pour ça, ce brave homme. On envoie l'armée pour commencer à installer des planches de bois près des habitations qui sont le plus proches du fleuve. On mobilise tous les fonctionnaires de la voirie, les pompiers, les ingénieurs et égoutiers qui se relaient jour et nuit pour commencer à installer des digues. On voit, alors ça y est, les photographes commencent à s'en donner à cœur joie. On voit des gens dimanchés qui ont de l'eau jusqu'aux chevilles, des dames qui sont obligées de retrousser leur grande robe. N'oubliez pas qu'on est encore en 1910, hein, évidemment. On déploie les fameux canaux Berton, les barques si vous voulez, des embarcations pliables, les barques du bois de Boulogne sont réquisitionnées, même celles d'un parc d'attractions. Tout est bon, hein, évidemment, on va avoir besoin de plus grand nombre d'embarcations possibles. Et puis, on remet les chevaux en service. Et oui, puisque évidemment les automobiles n'aiment pas tellement l'eau, surtout les automobiles de l'époque, vous pouvez imaginer. On se déplace le plus possible en omnibus. L'électricité a des sautes, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment l'électricité disparaît pendant un petit moment, mais il n'y a pas d'interruption totale. Les pompes à vapeur vont très vite se révéler inefficaces. L'eau monte beaucoup trop, en vérité. On essaie de protéger tout ce qu'il peut y avoir de plus moderne en matière d'infrastructure, notamment le central téléphonique Berger, qui est maintenant littéralement entouré par les eaux. Ça, c'est très grave, parce que si vraiment on coupait les communications, alors là, les conséquences seraient épouvantables. Et l'on commence à voir circuler dans les rues qui sont envahies par les eaux, ces espèces de tourbillons jaunes. Enfin, ça a l'air d'être jaune. En fait, c'est de la boue hein, qui se répand un peu partout. Des épaves également transportées par l'eau, ce qui fait que les rues sont de plus en plus sales, bien entendu. Et à 17h ce 22 janvier, le corps d'une femme de 40 ans est repêché quai de la Râpée. On dit qu'elle se serait jetée à la Seine du haut d'un pont. Bon, ça voudrait dire que ça n'aurait pas un rapport immédiat avec les événements en tant que tels. Tout de même, il y a maintenant des villages qui sont engloutis complètement Seine-et-Marne, et hors de Paris, on a déjà repêché 7 morts. Thank you.
Un extrait de L'apprenti sorcier de Paul Ducasse sur Europe 1. Revenons à cette crue spectaculaire de la Seine en 1910 avec vous, Franck Ferrand.
Nous sommes le 23 janvier maintenant, 23 janvier 1910. La Seine est à 6,25 m. Autant dire que le Zouave a de l'eau jusqu'en haut des cuisses maintenant. Les transports sont touchés, les tramways sont complètement arrêtés, le métro. Vous imaginez bien, n'en parlons même pas. Entre parenthèses, tout le chantier de la ligne nord-sud est sous les eaux, ce qui pose des problèmes énormes, bien entendu. Il n'y a pas de plaque aux égouts. Saint-Lazare, la Trinité sont touchés. En quelques heures, l'eau arrive jusqu'à la place de Rome. Vous imaginez quand même tout ça. On est très loin de la Seine. Là, on est vraiment très au nord de la Seine, vous imaginez. Et l'on ferme les gares. Alors on ferme la gare d'Austerlitz, évidemment, la plus proche du fleuve, celle du champ de Mars, hein, la gare d'Orsay, qui est devenue une espèce de piscine géante. On a des photographies d'ailleurs qui sont tout à fait incroyables. Un homme qui était sur le quai de Conti pour surveiller une pompe s'est retrouvé complètement coincé. Alors d'un seul coup, les journalistes affluent, etc. Il y a tout un travail. On met en place tout un système de palans pour essayer de l'extirper au moyen d'un tracteur. Hein, donc ça fait évidemment les gros titres de la presse. Il est sauvé, cet homme. Et l'on s'organise, quand je dis on s'organise, les habitants d'abord. Il y a tout un problème de ravitaillement. On se met à faire des provisions importantes. Les habitants qui sont au rez-de-chaussée doivent sonner chez leurs voisins du premier, hein, tout simplement, et venir s'installer. On s'organise, bien entendu. Il y a une solidarité qui se met en place, c'est évident. Avenue de Versailles, les habitants, dans l'après-midi, vont se mettre à chasser de gros rats qui sortent des caves, parce qu'évidemment, les rats quittent le navire, si je puis dire. Comme toutes ces caves sont inondées, on voit les rats affluer en surface. C'est peut-être ce qui a le plus marqué d'ailleurs les habitants de Paris au moment de cette crue de 1910. C'est cette affluence des rats qui sont maintenant partout. Il faut s'habituer à voir les chaussures trempées, les vêtements mouillés en permanence. C'est un petit peu... D'ailleurs, c'est intéressant de voir les photos de l'époque. On a un peu l'impression de voir Venise, si vous voulez. Hein. C'est le phénomène de l'Acqua Alta. Sauf que Venise est faite, si je puis dire, pour ça. Paris, pas du tout. Et pour les Parisiens, c'est un véritable traumatisme. Et l'eau monte, monte, monte. Le 24 janvier 1910, on est à 6,75 m. Le Zouave a de l'eau jusqu'aux hanches maintenant. Le télégraphe, le téléphone s'arrêtent de fonctionner. On se déplace comme on peut. On a réquisitionné les 75 000 chevaux qui étaient encore disponibles dans la région parisienne. Ça, c'est parce qu'on était en 1910. Entre parenthèses, on serait aujourd'hui, je ne sais pas comment on ferait, parce qu'il n'y a plus 75 000 chevaux à Paris, hein, évidemment. Et puis alors, on installe des chaises, notamment on sort toutes les chaises des écoles que l'on met pour installer des praticables, parce qu'on n'a pas pu mettre des systèmes de planches partout. Alors évidemment qu'il y a des passages surélevés dans les principales avenues, sur les boulevards, etc. Mais dans les petites rues, ben, on utilise tout ce qu'on trouve comme chaises, vous imaginez, et on passe comme ça, les boulangers livrent le pain en barque, on va voir s'installer des barques taxis, c'est ça qui est incroyable dans les grandes villes, c'est l'adaptation des populations en vérité, ça va très 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 vite. Hein. Et l'on commence, alors ça c'est inouï, on a des sociétés qui vont commencer à organiser des promenades, des visites organisées, des crues de la Seine. C'est quand même assez étonnant. Il y a une seule gare qui continue de fonctionner, c'est celle qui est le plus en hauteur, hein, qui est sur une sorte de petite colline. Ça se voit bien d'ailleurs quand on doit monter pour aller jusqu'à la gare de Lyon. C'est celle qui fonctionne. Et alors on voit, et on a des photos étonnantes de ça, les gens, notamment des dames à chapeau, hein, des hommes d'affaires avec leurs mallettes, etc., qui font la file, qui font la queue, embarquent pour aborder jusqu'à la gare de Lyon. Parce qu'évidemment, il y a des embouteillages de bateaux maintenant. C'est assez étonnant. Et puis le soir, les 5800 horloges pneumatiques de la ville s'arrêtent. J'allais dire d'un seul coup, pas tout à fait d'un seul coup, ce qui fait qu'il y a des petits décalages d'horaire sur les aiguilles. Mais en tout cas, désormais et pour longtemps, les Parisiens vont vivre à 22h50, hein, puisque toutes les horloges sont arrêtées. Je ne vous parle pas de la banlieue, là on parle toujours de Paris parce que ce sont les images les plus spectaculaires, mais en banlieue, c'est catastrophique. On a déjà 15 000 sans-abri, or je me permets de vous rappeler qu'on est le 24 janvier, donc il fait particulièrement froid. L'Humanité titre, c'est un désastre social. Et pendant ce temps-là, le Zouave continue à faire glou-glou. 7,8 m, il a de l'eau largement au-delà de la taille. On commence à libérer des fonds. Ça, c'est très intéressant. C'est la première loi de solidarité de l'histoire de France. 2 millions de francs libérés par le gouvernement pour essayer de venir en aide aux sinistrés, notamment dans les banlieues, parce que c'est la banlieue Est qui a été de très loin la plus touchée. On installe partout des comités d'accueil. C'est un petit peu une situation de temps de guerre, si vous voulez. On distribue aux personnes le matériel nécessaire. Et puis, on voit les ministres et le président de la République lui-même, le président Falière, qui passe ses journées à aller à la rencontre des sinistrés, bien entendu, avec cette solidarité qui s'organise. On monte notamment une soupe populaire très importante au 5 de la rue Budé. On est là dans l'île Saint-Louis, au cœur de la capitale. Cette soupe populaire est active de 9h à 19h tous les jours et l'on voit toutes sortes de petits métiers qui vont se développer, notamment tous ceux qui ont sorti les paniers de toutes les réserves possibles et qui vont transporter des vivres en paniers pour les personnes qui sont les plus difficiles à approvisionner, bien entendu. Il faut lire les lettres de l'époque. « Notre quartier a été bien éprouvé », écrit un habitant. « Jamais je ne me serais figuré que des rues de Paris n'étant pas situées au bord de l'eau puissent être envahies de cette façon. Ces quartiers n'ont plus ni gaz ni électricité et le soir c'est d'une tristesse navrante. » Et puis une autre lettre. « Chers parents, cela fait 2 jours que l'usine a fermé. Sans l'aide de nos voisins, il serait bien difficile de tenir. La grande solidarité qui règne partout est un réconfort quotidien. » Et c'est vrai que les Parisiens vont découvrir que, au-delà de la dureté d'une ville qui n'a pas grand-chose à envier aux pires capitales de la planète sur ce plan-là, eh bien, en dépit de cette dureté générale, les Parisiens sont capables, évidemment, de solidarité. Ils vont le montrer pendant ces terribles journées. 7,51 m le 26 janvier, mais on se dit, mais est-ce que ça va s'arrêter? Et d'autant plus qu'il fait de plus en plus froid parce qu'il y a des rafales de vent, évidemment, qui vont accentuer le froid. Il y a maintenant 200 000 malheureux qui attendent un refuge dans Paris avec tout les risques d'épidémie qu'on peut imaginer, bien entendu. Le préfet Lépine décide de déverser les ordures par-dessus les ponts, à Tolbiac, à Auteuil, etc. Les égouts, évidemment, depuis longtemps, se déversent dans la Seine. À l'époque, ça choque personne. Hein. 1300 tonnes d'ordures qui, comme ça, vont être jetées dans la Seine et qui flottent. Vous imaginez comme c'est peu ragoûtant, bien entendu. Et l'on appelle à longueur de page, les journaux en appellent à la solidarité, à la générosité des donateurs. En quelques semaines, on va ainsi recueillir quelques 4 millions de francs, ce qui est une somme vraiment considérable. Je me permets de vous rappeler que le gouvernement avait débloqué 2 millions. Vous voyez que la générosité publique va obtenir 4 millions. Et le 27 janvier, le Zouave a de l'eau largement jusqu'à la poitrine, 8,22 m. Ça, alors vraiment, on n'avait jamais vu ça. Là, ça devient très affolant parce que, au bout d'un moment, bien entendu, les jours passant et les nuits, et l'eau continuant de monter inexorablement, certains finissent par se demander, c'est une réaction psychologique naturelle, si ça va s'arrêter un jour. On a l'impression que Paris est un peu comme un grand navire qui serait en train, tout simplement, de faire naufrage.
Chers auditeurs, que pour agir tout au long de l'émission, nous envoyez vos messages et vos questions. Il y a Facebook, le Facebook de l'émission, les mails, europe1.fr ou encore via Twitter, le compte de Franck Ferrand ou hashtag ACDH. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la crue de la Seine en 1910.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, au 28 janvier 1910, à cette crue spectaculaire de la Seine.
28 janvier, le Zouave a de l'eau aux épaules. 8,62 m, c'est complètement incroyable. 40 kilomètres de rues sont inondées. 12 arrondissements, vous imaginez, 12 arrondissements ont les pieds dans l'eau, plus de la moitié des arrondissements parisiens. Une eau qui, en plus, est de plus en plus polluée, il faut l'imaginer. Très, très froide également. 20 000 immeubles sont touchés. Tous les, enfin, pas tous, mais la plupart des monuments sont inondés. inondé, la cave du Petit Palais, n'en parlons pas, la Sainte-Chapelle, vous imaginez, la Sainte-Chapelle avec de l'eau presque dans toute la chapelle basse, l'école des Beaux-Arts, l'Institut, enfin tout est... On a même une rumeur qui commence à se répandre dans Paris, on dit que la Tour Eiffel est touchée. Ça a des conséquences, les archives du Palais de Justice, par exemple, sont complètement inondées, alors on essaie comme on peut de sortir les dossiers de l'eau boueuse, mais ça devient terrible. Et... bien entendu, on voit se développer un certain nombre de discours, notamment la fameuse homélie de Mgr Ramette, qui est évêque de Paris, et qui va en profiter parce que n'oubliez pas qu'on est en 1910. On est encore dans les lendemains de la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, et Mgr Ramette dit « mais c'est une punition divine pour tous les sacrilèges qui ont été commis, etc. » comme si, en quelque sorte, le doigt de Dieu visait cette République française qui s'était mal comporté. Vous voulez que je vous dise ce qui m'étonne le plus dans toute cette histoire de crue de 1910, c'est la curiosité publique. On va voir, je vous disais que des barques, dès les débuts, organisaient des espèces de circuits des zones inondées, mais alors ça prend des proportions bien plus importantes. Les tramways qui vont de la gare de Lyon jusqu'au pont de Solferino, jusqu'au boulevard Saint-Germain, etc., tout ça est littéralement pris d'assaut pour voir tout ce qui peut être vu. Les ponts des Saint-Père, Saint-Michel, etc., sont noirs de promeneurs et une foule énorme s'agglutinent aux environs des rues sinistrées. On vient contempler les choses. Alors, je dis on vient les contempler. On observe ça sans doute avec une certaine, même avec une grande angoisse. Mais c'est curieux de voir tous ces badauds, toutes ces personnes qui sont là et qui ouvrent de grands yeux jusqu'à ce que, ouf, si je puis dire, jusqu'à ce que le 29 janvier 1910, enfin, la Seine se met à baisser un tout petit peu. Le zouave voit l'eau lui redescendre au-dessous des épaules. En une seule journée, le niveau va baisser de 37 cm. Et alors là, pour avoir vécu une crue, je peux vous en parler, ce qui est très étonnant, c'est que à partir du moment où ça commence à baisser, alors il y a une espèce d'impatience qui s'empare de la population. On voudrait que ça baisse beaucoup plus vite, un peu comme quand vous videz votre baignoire. Sauf que c'est aussi long à baisser qu'à monter cette eau, évidemment, parfois même un peu plus. Et donc, on a l'impression que l'eau n'en finira pas de baisser. Néanmoins, à partir du 30 janvier, il est très clair que les eaux se retirent. Les Parisiens espèrent que cette décrue va se poursuivre, bien entendu. Et là, ce qui est terrible aussi, c'est qu'à mesure que l'eau diminue, eh bien, on voit apparaître tous les ravages, et notamment les ravages sur l'architecture, sur tous les travaux qu'il va falloir faire de consolidation, de rénovation, etc. Un arrêté préfectoral décrète que dès que les eaux auront évacué les immeubles inondés, les propriétaires devront faire procéder dans un délai de 24 heures après le retrait des eaux à l'assainissement et à la désinfection de leur propriété. C'est facile à dire quand on est dans le bureau du préfet, si je puis dire. Mais dans la pratique, c'est extrêmement difficile. Enfin, je dis ça, et en même temps, le préfet, il avait vraiment de l'eau jusqu'à la taille aussi, là, en l'occurrence, puisque la préfecture n'a pas été du tout épargnée, bien entendu. On va se mettre à collectionner très vite les photos, d'abord les journaux de l'époque, les photos, les cartes postales avec la crue. Dans les années 1911, 1912, 1913, il était difficile à Paris de trouver des cartes postales qui représentent autre chose que la grande crue de 1910, bien entendu. Chacun veut en garder un souvenir, même si cette crue gigantesque, 720 hectares, inondée, hein, c'est tout à fait extraordinaire, même si cette crue qui a entraîné des dégâts considérables pour 200 000 Parisiens, qui a coûté énormément d'argent, 400 millions de francs or de l'époque, c'est plus ou moins l'équivalent d'un milliard ou un milliard et demi d'euros d'aujourd'hui, peut-être même un peu plus sur certaines estimations, cette crue, disons-le, n'a fait que deux victimes, l'eau se retire et derrière elle, elle laisse la trace de la dévastation. Emmanuel Garnier et Laurent Cabrol sont mes invités. Bonjour messieurs. Bonjour. Dans un instant, nous allons revenir sur cette crue de 1910 et puis sur un certain nombre d'autres grands accidents climatiques de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Quand le climat change le cours de l'histoire, vous nous en parlez cet après-midi dans Cœur de l'Histoire, Franck Ferrand, avec vos invités, Emmanuel Garnier, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire CNRS Lyon, Université de La Rochelle, auteur des Dérangements du Temps, 500 ans de chaud et froid en Europe aux éditions Plon, et notre monsieur météo, Laurent Cabrol.
Évidemment. Alors, Emmanuel Garnier, vous avez participé à ce numéro des cahiers de Science et Vie qui s'appelle « Quand le climat écrit l'histoire ». C'est très intéressant parce que Science et Vie s'intéresse non seulement à différents accidents climatiques de l'histoire, mais aussi au rôle du climat sur l'histoire et puis, accessoirement, à l'histoire même de la climatologie. On va revenir sur tous ces aspects. Un mot peut-être avant cela de cette crue de 1910 qui, dans l'imaginaire collectif en France, reste peut-être comme un des plus grands cataclysmes que nous ayons connus.
Oui, et quel démenti à la devise parisienne Paris n'a pas flotté en 1910. Elle a bien coulé pendant quelques jours, effectivement. Oui. C'est effectivement un événement de référence pour nous. C'est ce qu'on appelle un événement extrême, c'est-à-dire tout ce qui s'écarte de la moyenne.
Ah oui, là, c'est moins compliqué,
Et qui aujourd'hui constitue un petit peu le chiffon rouge des autorités préfectorales en particulier. Il existe des quantités de comités qui régulièrement se réunissent et tentent de réfléchir à la meilleure stratégie possible. Et comme vous l'avez parfaitement expliqué, à l'occasion quand même, Paris, les autorités, etc., nous ont livré un magnifique exemple d'adaptation et de gestion de crise.
Oui, c'est ça. En quelques heures, on peut dire que certains étaient déjà, s'étaient fait à l'idée et on avait modifié les modes de vie, etc. L'adaptabilité humaine est tout à fait extraordinaire. Laurent Cabrol, il y a une auditrice qui, par tweet, nous demande s'il y avait déjà un service météo à l'époque et si oui, s'il était consulté sérieusement.
Il y avait déjà un service météo, mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que cette crue 1910, cette crue centrale est attendue. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'histoire.
Oui.
C'est encore du présent. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, le studio de TF1 qui est situé, la maison Bouygues est située en bord de Seine, ce studio TF1 du 20h a été entièrement reconstitué à la plaine Saint-Denis dans un endroit plus élevé pour la future crue centenale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe un studio parallèle de celui que l'on connaît tous les soirs pour éventuellement...
C'est-à-dire qu'on se dit que ce qui a pu se passer en 1910 pourrait se reproduire.
Bien
en fait,
sûr, hein. C'est-à-dire qu'on ne dit pas si ça va se reproduire, on dit quand ça va se reproduire.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'à partir de 2010, on s'est dit, bon, ben voilà, la crue centrale. Alors, fort heureusement, nous avons eu quand même des progrès qui ont été effectués. On a installé le lac du Der, qui est en Champagne, et qui est un lac, le plus grand lac d'Europe, qui est un lac réservoir, qui permet de réguler la Seine. Mais malheureusement, si vous voulez, ça n'est pas seulement la pluie sur Paris qui donne la crue centrale. C'est Lyon, le Loing, le Grand Morin. C'est un automne extrêmement pluvieux. Ce sont des pluies qui sont très importantes pendant quelques jours. Donc, ça n'est pas quelque chose qui est dans l'imaginaire de l'histoire.
Ah, mais comment, à partir de quand estime-t-on qu'il y a danger et qu'il faudrait prendre des mesures très urgentes pour la capitale elle-même?
Je crois qu'à partir du moment où nous aurons un automne très très pluvieux, que l'on aura des sols saturés, eh bien là l'inquiétude commencera à grandir parce que dès le mois de janvier, comme ce fut le cas en 1910, s'il y a saturation des sols et si les pluies commencent à devenir très importantes, parce qu'il n'est pas tombé énormément de quantité d'eau par rapport à ce que l'on a connu.
Non mais le sol était très saturé en
oui,
fait.
Oui, mais il est tombé 120 litres d'eau au mètre carré pendant 4 jours. Ça n'est pas énorme en soi, mais les sols étaient tellement saturés et puis surtout Lyon, le Loing et le Grand Morin étaient tellement déjà pratiquement en crue que nous avons réussi d'un seul coup à avoir en quelques jours une capitale totalement investie par l'eau. Oui. Et ça, c'est une concordance d'événements qui peut se reproduire. Malheureusement, c'est dans les tuyaux. C'est-à-dire que la mairie de Paris a déjà tout prévu.
Sébastien nous fait remarquer que France 3 a consacré une émission spéciale, France 3 région, hein, France 3 Paris, a consacré une émission spéciale qui s'appelle « Quand la Seine montera » et qui a été diffusée il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut dire, Emmanuel Garnier, que la météorologie était déjà très développée au début du XXe siècle, en 1910. Est-ce que l'on s'intéressait de près à ces questions climatiques ?
Oui, absolument. Elle était déjà relativement bien développée à l'échelle de l'Europe, pas seulement en France. En France, la prise de conscience date principalement du Second Empire, à l'occasion de la guerre de Crimée, parce qu'une tempête avait détruit une bonne partie de la flotte de débarquement, qui était censée donc débarquer ses troupes contre les Russes.
On revient aux Zouaves,
finalement. On revient aux Zouaves, absolument, oui, c'est vrai. Ces services météorologiques avaient été constitués à l'échelle des départements, pratiquement. Et dans le cas de 1910, le réseau d'alerte a parfaitement fonctionné. Simplement, les autorités à l'époque ont connu, un certain temps d'inertie avant de prendre des mesures de grande ampleur, notamment par l'intervention massive. Il faut insister sur ce point, l'intervention massive de l'armée.
Et oui, bien sûr.
Puisque près de 50 000 hommes ont été lancés dans la bataille de la Seine courant janvier seulement sur la région parisienne. On imagine quand même l'effort militaire pour le pays. 50 000 hommes, c'est à peu près un quart des effectifs actuels de l'armée.
On est en 1910 et qu'on est dans cette période de préparation d'une guerre que l'on sait imminente. Et donc l'armée est là disponible avec un service militaire important.
Absolument.
L'autre progrès de la météo fut la guerre de 39-40, avec toutes les armées et toutes les flottes aériennes qui se sont multipliées durant cette guerre et qui ont permis à des météos comme celle de la météo allemande, anglaise, américaine et française, et d'être parmi aujourd'hui encore les meilleurs, les plus performants. Pourquoi ? Parce que pendant la guerre, ils ont fait des progrès considérables.
Bien entendu. Vous êtes très sensible, Emmanuel Garnier, à la question de la mémoire de ce type d'événement. Vous dites qu'il faut l'entretenir et en quelque sorte qu'elle est une sauvegarde, d'une certaine manière.
Oui, en aucun cas un ornement, mais bien une sauvegarde, une question de survie. Maintenir cette mémoire et plus encore la transmettre, c'est se garantir contre un événement extrême du type 1910, dans la mesure où les populations sauront qu'elles peuvent être confrontées à ce type d'événement. Et en le sachant, elles accepteront d'autant mieux de s'adapter à la fois les directives publiques et voire même élaborer leur propre stratégie locale à l'échelle, vous y faisiez allusion dans votre exposé, à l'adaptation à l'échelle du pâté de maison, du bâtiment, la sauvegarde des plus anciens, des moins mobiles et ainsi de suite. Ce sont des pratiques quand même qui sont assez généralisées aujourd'hui dans d'autres pays européens.
Oui. L'eau étant l'ennemi principal, d'une certaine manière, le danger le plus imminent, il y en a d'autres, bien entendu, des dangers climatiques.
Oui, hélas, oui.
Il y a le vent aussi, par exemple.
Oui, le vent, la mer, mais on rejoint le domaine de l'eau, effectivement.
Oui. Le froid.
La sécheresse en
le
fait
froid,
aussi
bien
partie.
Sûr, comme disons.
La sécheresse peut avoir des implications, sous l'Ancien Régime, absolument dramatiques pour les populations.
Alors justement, on ne peut pas parler de climat et d'histoire du climat sans rendre hommage à Emmanuel Leroy-Ladurie, bien entendu, que je salue très chaleureusement, qui a beaucoup travaillé sur cette question et qui nous a montré que les archives étaient en quelque sorte le réceptacle et le témoin d'un certain nombre d'informations sur le climat et qu'il était possible d'écrire une histoire du climat. Ça a été l'une des grandes avancées de la science historique des années 70 et 80, d'une certaine manière.
Emmanuel Leroy-Ladurie est incontestablement le pionnier, l'inventeur de cette histoire du climat. J'en suis l'héritier, j'ai l'honneur de collaborer avec lui très régulièrement, c'est une chance. Effectivement, il a eu la perspicacité d'utiliser des sources. Nous ne disposons pas d'archives à proprement météorologiques avant le milieu du 19e siècle. Laurent Cabrol parlait de la construction progressive des services météorologiques. Auparavant, Emmanuel Leroy-Ladurie, puis moi, nos étudiants, avons pris l'habitude de puiser un petit peu cette information météorologique dans des séries d'archives qui n'ont absolument rien à voir avec le climat, telles que les archives religieuses, les archives administratives, etc.
Les vendanges.
Les vendanges, donc, qui ont constitué effectivement le socle de la recherche d'Emmanuel Leroy-Ladurie.
Alors, nous allons voir avec vous deux dans un instant qu'il y a eu dans le passé des périodes un peu plus chaudes, des périodes un peu plus froides, et que tout ça a eu des conséquences directes, immédiates sur l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Quand le climat change le cours de l'histoire, vous nous en parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec vos invités, Laurent Cabrol, notre journaliste météo à Europe 1, et puis Emmanuel Garnier, directeur de recherche au laboratoire CNRS Lyons, Université de La Rochelle, auteur également des Dérangements du temps, 500 ans de chaud et froid en Europe aux éditions Plomb, et qui a également collaboré au numéro des cahiers de Science et Vie, Quand le climat écrit l'histoire, un numéro qui est en kiosque actuellement.
Oui, c'est un beau numéro qui est très bien conçu autour de... Vous avez toute une série série d'articles sur l'influence du climat sur les civilisations. Et là, on voit à quel point le climat a en quelque sorte forgé certaines civilisations. C'est assez extraordinaire. Il ne faut pas aller trop loin, d'ailleurs, on le dit dans le magazine. Il y a l'influence du climat sur les hommes eux-mêmes. Et puis, l'influence de l'homme sur le climat. On y viendra évidemment à la fin de cette émission avec un préambule, une grande interview d'Emmanuel Leroy-Ladurie, évidemment. Laurent Cabrol, ce qu'on constate, c'est que dans le passé, il y a eu des périodes où il faisait un peu plus chaud et d'autres où il faisait un peu plus froid, en fait.
Nous avons connu ce qu'on appelait l'optimum médiéval, c'est-à-dire entre l'an 900 et l'an 1300. Ça n'est pas si loin que cela. C'est l'époque où nous construisions des cathédrales. Donc, c'est des époques où on peut encore toucher les pierres de ce que nos ancêtres ont fait. Et c'est une époque où nous avons eu pendant 4 siècles. Alors, c'est vraiment.
Avec des hauts et des bas, hein, il faut
c'est
bien
une grande
toujours.
Tendance, bien sûr, hein, parce que dans cette période qu'on appelle une période extrêmement chaude, c'est en fait une période durant laquelle la globalité des températures ont été élevées. Parce que comment ? On n'avait pas de thermomètre, donc on s'en était aperçu avec des petits détails, des fresques avec des écrits, les fraises que l'on récolte à Strasbourg à Noël, les cigognes qui nichent au même moment, les vignobles qui arrivent sur l'Angleterre et le Danemark, la population qui est de plus en plus prospère, on dit que la natalité augmente, on dit que le bois a un succès fou, que l'on construit des maisons, des moulins, des tonneaux, que on a tellement besoin de bois que pour enterrer les gens, on loue les cercueils parce que il n'y a pas assez de bois pour construire un cercueil pour tout le monde. Vous voyez, jusqu'où l'on va. On dit que pour construire une maison, il faut 15 chaînes.
Oui, c'est-à-dire que là, c'est un travail d'enquête. À partir de tous ces indices, voilà, on finit par en déduire, évidemment.
On en déduit qu'entre 900 et 1300, on a eu une période dite chaude. C'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on s'appuie sur les quelques dizaines d'années qui sont devant nous et que l'on en conclut qu'il sera une période chaude, on peut accorder un petit peu de sourire à tout ce que l'on affirme, parce que à cette époque-là, il y a eu des périodes pendant 10 ou 15 ans où il a fait très très froid, mais globalement c'était une période, l'optimum médiéval. Alors je ne sais pas si Emmanuel Garnier il souscrit, mais enfin le roi Ladurie, notre maître à tous, lui il souscrit en tout cas. Et ce fut une période où il a fait beaucoup plus chaud que par la suite nous avons connu le petit âge glaciaire, et même presque aussi chaud qu'aujourd'hui, peut-être plus.
On peut dire que vous y souscrivez, incontestablement.
Bien évidemment, j'y souscris totalement, absolument. Oui, il suffit de prendre l'exemple, mais qui est emblématique, nous l'utilisons tous, des fameux Vikings qui partent à la conquête des zones arctiques, par saut de puce progressive, de la Scandinavie à l'Islande, de l'Islande au Groenland, même au tournant des années 900-950, le climat est tel, et par conséquent la végétation aussi, qu'Éric le Rouge considère qu'il peut y installer une colonie de peuplement.
Il appelle ça le Groenland, c'est-à-dire le pays vert.
Alors, on dit aussi qu'il a peut-être voulu faire la promotion effectivement de sa découverte en parlant de pays vert. Toujours est-il qu'on constitue bien, les archéologues l'ont démontré, qu'on constitue bien des communautés d'éleveurs, c'est-à-dire qu'on a des pâturages, de quoi élever du bétail. Ce bétail, les sagas islandaises y font allusion. Et même quand le fils d'Éric le Rouge décide d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire jusqu'à l'estuaire du Saint-Laurent, dans le secteur aussi de Terre-Neuve, les Vikings décrivent toujours dans leur saga un pays relativement vert, en aucun cas extrêmement rigoureux sur le plan climatique, puisqu'ils envisagent une fois de plus d'importer du bétail.
Si vous le permettez, Emmanuel, justement, c'est ça la particularité, c'est que quand Éric le Rouge, avec ses Vikings et ses familles islandaises, est parti d'Islande pour aller au Groenland, il est parti non pas comme ça en aventurier, avec des femmes, des enfants, des cochons, vaches, couvées, oui. tout ce qui constituait le peuplement d'un pays continental tempéré. Et il est allé vivre là-bas.
Exactement, parce que si vous prenez en référence d'autres voyages de découvreurs, notamment les puritains anglais qui s'installent en Amérique du Nord, plusieurs expéditions complètement échouées, les gens sont morts. Et ce n'est pas le cas de ces Vikings qui s'installent au Groenland.
Alors ça, c'est l'optimum médiéval, mais évidemment, ça va se gâter par la suite. On a, Emmanuel Garnier, une période qui devient nettement plus froide par la suite, à partir du XVIe siècle.
C'est à partir du 14e siècle, début 14e siècle, comme disait Laurent Cabrol, vers 1300. Les historiens sont partagés, généralement on situe ça dans les années 1320-1340. Là encore, on peut reprendre les Vikings, bon exemple. Ils voient le climat changer, mais refusent, ou en tout cas se sentent incapables de s'adapter, alors qu'ils ont quand même un modèle a priori à portée de main, celui des Inuits, qu'eux ont continué à chasser et ainsi de suite. Et les Vikings abandonnent, enfin les Scandinaves, je ne sais pas si on peut encore les appeler vikings au début du XIVe siècle, toujours est-il qu'ils abandonnent leurs anciennes colonies et le Groenland sera dépeuplé d'occidentaux, d'européens, jusqu'à la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle.
Et ceux qui restent meurent d'ailleurs.
Ceux qui restent finissent par mourir, oui, tout à fait.
Chez nous, en France, à l'époque, on a des hivers d'une dureté folle, évidemment.
Oui. Alors là, on rentre dans un épisode très très long que par commodité, on appellera le petit âge glaciaire, comme pour le pomme. Quand vous le mentionniez, ce n'est pas si simple. En théorie, c'est une période très longue qui est comprise entre le début du XIVe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle et qui correspondrait à une période d'offensive des glaciers, d'extension maximale, etc. Quand on rentre dans les détails, tout comme pour le petit optimum médiéval, on constate des fluctuations très très importantes avec des rémissions en termes de température.
Tout ça, ce sont des moyennes générales et ce sont des tendances. Mais évidemment, quand on vit au jour le jour, c'est un peu comme aujourd'hui, tout le monde parle d'un réchauffement climatique et vous avez des moments où il fait très froid, tout le monde dit bah dis donc. Bon, mais il faut tenir compte des globalités, des moyennes.
De la variabilité également.
C'est ça, bien entendu. Depuis quand est-ce qu'on mesure la température précisément, d'ailleurs, Laurent ?
Oh ben la température depuis que le thermomètre existe.
Ouais, c'est ça.
En fait, en 1654, c'est Ferdinand II de Médicis qui est le premier à créer le thermomètre à alcool. Mais ensuite, alors là, dans son thermomètre, la glace fondait à 13 degrés. Vous voyez que c'était pas tout à fait au point. Mais en 1717, c'est le Fahrenheit, historique,
oui, bien sûr,
connu,
oui.
Hein, un savant allemand, qui, lui, change l'alcool par le mercure. Et en 1741, c'est le fameux Celsius, le nôtre, là, celui qui détermine nos températures.
Celui auquel nous référons.
Voilà, qui définit la congélation à 0 degré et l'ébullition à 100 degrés. C'est lui qui est notre maître à tous, 1741. Donc oui, c'est quand même assez loin, hein, mais on était... La Révolution française a décidé ensuite le système métrique, c'est-à-dire qu'on a décidé de graduer entre 0 et 100. Mais c'est cette époque vraiment qui marque le début de la prise de température.
Alors évidemment, on pourrait se poser la question des facteurs qui ont expliqué ces périodes plus chaudes ou plus froides, etc. Il me paraît plus intéressant dans le temps qui nous reste, là, dans le cadre de cette émission d'Histoire, Emmanuel Garnier, de comprendre quels ont été les effets du climat sur l'histoire elle-même. L'exemple qu'on donne toujours, mais vous allez me dire si vous y souscrivez pour le coup, c'est celui des crises frumentaires, des crises de récolte des années 1787-1788 et qui ne seraient pas pour rien dans l'avènement de la Révolution française.
Oui, tout à fait. Le phénomène a été observé et étudié de très très près depuis une vingtaine, trentaine d'années, notamment par Emmanuel Roy Le Duris, mais pas seulement. Il est clair que le facteur météorologique a joué un rôle. De là à parler de monocausalité, on est en 1788-89 par rapport à la Révolution française, ce serait ridicule, tout comme affirmer que le passage du Rhin en 406 par les Vandales marque l'influence du climat sur la chute de l'Empire romain. Toujours est-il que les conditions météorologiques du moment, plus précisément de juillet 1788, ont eu pour conséquence une destruction vraiment massive des récoltes un petit peu partout dans les grands greniers à blé du Royaume de France à l'époque, Normandie, Poitou-Charentes, Normandie, Île-de-France, etc. Et immédiatement sur les marchés du blé à Paris, on dispose de sources, notamment d'un journal intime d'un libraire parisien qui décrit et qui a la bonne idée, il refuse de faire acheter son pain par sa domestique. Et donc tous les jours que le bon Dieu fait, ce libraire qui s'appelle Hardy va acheter son pain lui-même et du coup consigne le prix de la miche de 4 livres, si j'ai bon souvenir. Et c'est un élément extrêmement précis qui permet de renforcer cette idée de l'impact direct de la météorologie.
Si les hivers, on dit-on aussi, si l'hiver 1812 ou l'hiver 1942 n'avaient pas été les mêmes, les expéditions russes de Napoléon d'abord, puis d'Hitler n'auraient sûrement pas été les mêmes non plus. Enfin, c'est vrai que le climat joue un rôle. Moi, j'aime souvent, hein, je le fais presque tous les jours dans les récits d'au cœur de l'histoire, j'aime dire quel temps il faisait et quel était le climat, parce que ça fait partie de l'histoire en quelque sorte, Laurent.
Si je puis me permettre, le 18 décembre 1788, nous sommes donc pas très loin de la
veille,
révolution,
oui.
Il fait moins 37 à Mulhouse.
Oh là 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 là.
Et il y a 86 jours de gelée continue à Paris. Donc avec des températures de moins 21. Donc vous voyez que nous sommes dans un monde où vraiment il n'y a aucun progrès possible. On est là et on sait que la récolte sera mauvaise. Et non seulement la récolte sera mauvaise, mais qu'à cette époque-là, la récolte, c'est la semence de l'année suivante.
Bien sûr.
Parce qu'on n'a pas de semence. Donc si la récolte est mauvaise, ça veut dire qu'on n'aura pas à manger cette année et l'année prochaine.
Eh oui, donc ça ne peut qu'entraîner des conséquences politiques, c'est évident, économiques et politiques.
Et notamment au cours du printemps.
Ce que je trouve passionnant dans ce numéro des cahiers de sciences et vie, là, quand le climat écrit l'histoire, c'est qu'on ne se contente pas de voir quelles sont les conséquences, j'allais dire à la petite semaine, des variations de climat ou des accidents climatiques sur l'histoire, mais on voit aussi quel a été le rôle du climat et des différentes zones climatiques sur le globe dans la construction de certaines civilisations. C'est Montesquieu qui est cité là, qui disait que le premier des empires est l'empire du climat. Alors, on ne peut pas faire de déterminisme, mais il est certain que certaines civilisations doivent beaucoup au type de climat qui était le leur. On pense toujours évidemment à la civilisation égyptienne, par exemple. C'est vrai des Mésopotamiens aussi. Autre exemple, Emmanuel Garnier.
Oui, elles doivent beaucoup. On peut aussi inverser la question. Elles ont aussi su s'adapter aux conditions climatiques.
C'est-à-dire que la forme que prend la civilisation, c'est la forme d'une adaptation.
En partie.
Oui, en partie, hein, bien entendu.
En partie, c'est important, parce qu'il y a d'autres facteurs, notamment politiques, qui peuvent également intervenir.
Autre grande question, c'est le rôle de l'homme lui-même. Ça, ce sont les derniers chapitres de ce magazine. Le rôle de l'homme lui-même sur le climat. On sait que là-dessus, vous avez des avis bien, bien personnels, Laurent. Sur le facteur, disons, anthropique.
C'est-à-dire que je pars du principe que l'homme ne peut pas être le seul responsable du réchauffement climatique. Quand je dis « je », c'est en tant que journaliste, après avoir écouté tous les avis, hein, ceux des autres chercheurs qui sont autres que le GIEC, par exemple, eh bien, où on s'aperçoit que l'homme a certes sa patte et sa responsabilité, mais c'est une des responsabilités. Parce qu'on ne peut pas occulter le soleil. Quand on a parlé tout à l'heure du petit âge glaciaire, il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de tache sur le soleil. Donc, il y a une influence forcée entre le rôle du soleil et le rôle du climat que nous avons. On ne peut pas imaginer que nous ayons un chauffage ou un thermostat aussi important que le soleil et ne pas en tenir compte. Il y a le rôle des nuages, il y a le rôle des aérosols, il y a le rôle des océans qui est un rôle considérable. C'est deux tiers de la planète dont on connaît peu de choses. Donc, si vous voulez, mon point de vue qui n'est pas le mien, mais qui est simplement de tempérer la folie actuelle qui consiste à dire que l'homme est responsable à 95% du réchauffement climatique, cette folie, à mon avis, doit être tempéré par l'avis de milliers de chercheurs qui pensent le contraire.
Merci beaucoup Laurent et merci de faire la part du temps sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes un peu le poète de cette maison, je n'ai pas peur de le dire. Merci Emmanuel Garnier, il y aurait beaucoup beaucoup de sujets à évoquer, hein. Nous n'avons fait qu'effleurer la matière. Je renvoie évidemment nos auditeurs au cahier de Science et Vie. C'est le grand dossier s'appelle « Quand le climat écrit l'histoire » et vous verrez à quel point ce climat a eu un rôle essentiel sur l'histoire du monde. Et puis je renvoie aussi nos auditeurs à votre ouvrage paru chez Plon, « Les dérangements du temps, 500 ans de chaud et froid en Europe ». Et c'est vrai que là aussi, on se rend compte que finalement, il faut toujours regarder la couleur du ciel avant de savoir comment les événements vont tourner. Merci beaucoup.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à Marie-Antoinette qui s'interroge sur les origines de la Chandeleur.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Marie-Antoinette. Elle aimerait savoir d'où vient l'origine de la fête de la Chandeleur.
Moi, je réponds à une question de Marie-Antoinette. N'est-ce vous avouerez que ça ne manque pas de sel. Alors, vous avez remarqué, Céline, que les jours allongent en ce moment. Le soleil est de retour. Déjà dans l'Antiquité, les Romains célébraient à ce moment-là les Lupercales. Et on célébrait le soleil en mangeant des galettes. Vous savez, des galettes de céréales qui étaient rondes, dorées comme le soleil, d'une certaine manière. L'Église, lorsqu'elle a récupéré toutes ces vieilles traditions païennes et qu'elle en a fait des fêtes à son compte, a fait de cette fête des Lupercales la fête des chandelles, d'où la chandeleur, n'est-ce pas, aujourd'hui. Et on a repris le rituel de la galette de céréales, sauf qu'à partir du XIIIe siècle, on se met à importer du froment et la galette commence à ressembler à ce que nous appelons, nous, la crêpe. Alors, vous connaissez la tradition, hein, on fait sauter la crêpe de la main droite pendant qu'on tient un louis d'or dans la main gauche, bien entendu, et ensuite, on met le louis dans l'armoire, la crêpe au-dessus. Ça tombe bien parce que généralement la première crêpe est ratée et avec ça, eh bien, on aura du bonheur et de la prospérité pendant toute l'année. Bonjour Marion Ruggieri.
Bonjour Franck. Aujourd'hui, nous avons deux lus pour le prix d'un. Marc Lavoine qui publie un premier roman sur son père qui s'appelait Lulu. Et puis Lulu Gainsbourg qui viendra nous présenter son premier album.
Eh bien voilà, merci beaucoup Marion. Vous ferez des crêpes ce soir, j'imagine.
C'est déjà fait, c'était
hier. C'est déjà fait, bon voilà. À demain
Céline. Sans Louis d'or.
À demain Franck.